Vous écoutez
RMC. Face à face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Manuel Valls.
Bonjour Marie Chantrey.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes évidemment, on ne le rappelle pas, ancien Premier ministre, ancien ministre également des Outre-mer, du gouvernement François Bayrou et de Sébastien Lecornu. 28 avril dernier, 28 avril aujourd'hui, 28 février, il y a 60 jours, les États-Unis et Israël frappaient l'Iran. La guerre entre ce mardi dans son troisième mois. Si vous êtes face à moi ce matin, Manuel Valls, c'est que dans une tribune que notamment nos confrères de l'Express ont publiée cette semaine, vous étriez littéralement la diplomatie française, vous ne mâchez pas vos mots, inaction, décision hasardeuse, on va y revenir longuement. Vous, l'ancien ministre d'Emmanuel Macron, pourquoi tant de sévérité? Pourquoi jouer contre votre camp?
Je ne joue pas contre mon camp. J'essaie de réfléchir sur ce monde qui a totalement changé, qui a basculé. Je me suis exprimé au sein du Conseil des ministres au mois de juillet pour dire que je n'étais pas d'accord avec la reconnaissance de la Palestine sans condition. Donc je suis resté un homme libre, un patriote, un républicain, mais qui considère que le logiciel de la diplomatie française n'a pas intégré le basculement dans lequel nous sommes, notamment depuis le 7 octobre 2023, cette attaque terrible du Hamas contre Israël qui a rebattu les cartes au Proche et au Moyen-Orient. Voyez-vous, nous sommes face à deux lignes de front majeures. L'Ukraine, évidemment, où se joue l'avenir de l'Europe, notre liberté. C'est pour cela que nous soutenons les Ukrainiens. C'est pour ça que nous apportons notre soutien à Volodymyr Zelensky.
Grâce notamment à ce nouveau plan, voté, dû notamment à, au fait que Viktor Orban ait été battu.
Grâce aussi à l'Union Européenne. Et je me réjouis, je soutiens là notre diplomatie et l'action d'Emmanuel Macron, parce que je pense que c'est essentiel pour l'Europe de bâtir sa défense et d'investir massivement pour le soutien aux Ukrainiens, mais aussi pour notre défense. Et l'autre ligne de front, elle se joue au Proche et au Moyen-Orient, mais elle nous concerne aussi, c'est la ligne de front de l'islamisme.
Mais l'homme libre que vous êtes, vous le dites, ok, très bien, il distribue, Emmanuel Macron, des leçons de droit international. Vous êtes très très sévère à l'égard de son action, à l'égard également de la diplomatie française, je le disais. La France n'a été ni prévenue, ni impliqué. Ce sont les premiers mots du chef de l'État. Une forme de transparence qui est aussi à saluer. Fallait-il aller plus loin dans cette guerre en Iran?
Il faut choisir son camp avec lucidité. Évidemment, la diplomatie, la guerre ne sont pas des choses faciles. La guerre s'est invitée de nouveau. Pour nos sociétés, c'est un bouleversement, bien sûr, en Europe et partout au Proche et au Moyen-Orient. Et si les cartes ont été rebattues, il faut adapter notre logiciel. Choisir son camp, ça veut dire soutenir les démocraties qui se battent contre le terrorisme islamique. Et l'Iran, il faut toujours désigner un ennemi. L'Iran est notre adversaire, est notre ennemi, est l'ennemi de nos valeurs et de l'Occident.
Et de votre point de vue, il n'est pas assez suffisamment désigné comme notre ennemi aujourd'hui.
Il y a parfois une d'équidistance, et on le voit notamment au Liban, entre le Hezbollah et Israël, comme si c'était des belligérants. L'Iran, c'est la profusion depuis 40 ans, partout dans le monde, de l'islamisme. C'est le terrorisme contre ses opposants sur le sol français, mais aussi contre nos intérêts. C'est évidemment la menace nucléaire, inacceptable pour Israël, puisque l'Iran menace régulièrement d'anéantissement l'État hébreu, mais ça nous concerne aussi directement. C'est la déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient, à commencer par le Liban, où le Hezbollah agit pour les seuls intérêts de l'État iranien.
Et on va évoquer
évidemment
ce qui se passe
le massacre
au Liban.
De son peuple.
Mais vous écrivez...
Donc face à cela, nous ne pouvons pas rester inertes. Nous ne pouvons pas dire que cette guerre ne nous concerne pas. Je suis le premier à dire que la stratégie de Donald Trump, nous avons du mal à la lire. Pourquoi on n'a pas anticipé le blocage potentiel du détroit d'Ormuz? Tellement de mots, cette avalanche de discours, et le sentiment d'ailleurs d'abandon du peuple iranien qui a été qui est massacré par ce pouvoir.
Et donc on est très très loin d'un changement aussi de régime. Vous écrivez,
oui, mais
le président.
Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative à ce qui est en train d'être fait? Continuer de négocier, mais enfin c'est ce qu'on fait depuis 40 ans. Là, j'étais Premier ministre quand il y a eu l'accord sur le nucléaire en 2016, malgré les préventions de la...
demain par le président
malgré
américain.
Les préventions de la France et Laurent Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères, avait mis beaucoup de conditions, mais Barack Obama voulait à tout prix cet accord. Donald Trump l'a balayé au bout de 2 ans. Mais l'administration Biden, démocrate, n'a pas repris ces négociations. Est-ce que la menace nucléaire a été abandonnée? Elle est toujours là.
Certainement.
Est-ce que
pas.
La menace des missiles balistiques qui concernent d'abord Israël, mais pas seulement, n'existe-t-elle pas? Elle existe toujours.
Manuel
Nous
Valls.
L'avons vu. Bon, donc, est-ce que ce régime déstabilise toujours le Liban? Plus que jamais. Donc, il faut choisir son camp, il faut désigner l'ennemi,
ce
il
que
faut
la
faire
France
valoir
ne
nos
fait
intérêts
pas,
stratégiques.
Ce que la France, Manuel Valls, ne fait pas suffisamment, selon vous, aujourd'hui.
Évidemment,
vous évoquiez,
et c'est le cas au Liban, en le soulignant, et je le dis
vous
dans
évoquiez
cet article.
L'attitude de Donald Trump, du président américain, son imprévisibilité aussi. Il y a quelques semaines, il parlait de rendre sa grandeur à l'Amérique. Il évoquait une petite excursion, je le cite, en cours pour détruire le mal. On est aujourd'hui très loin de la petite excursion qui est en train de ressembler à une guerre gelée, peut-être jamais terminée. De ce point de vue-là, est-ce que la retenue de la diplomatie française, la retenue aussi plus largement des Européens, ne va pas dans leur sens?
Oui, mais la retenue des mots, un discours intelligent, ne pas parler tout le temps, bien évidemment. Mais il faut revenir à l'essentiel. Moi, je lis, j'écoute ce que disent Éric Danon, Alain Boer, Frédéric Ancel sur le discours de Trump. Trump, il a son discours. Il gère l'opinion publique américaine.
Sa propre opinion.
Et il est comme ça, malheureusement. Et quand il évoque, par exemple, la destruction d'une civilisation, on a froid dans le dos, bien évidemment. Sans doute que l'administration américaine a davantage de stratégie. Mais le monde a changé le 7 octobre, je vous le disais. Israël est sur un front très large de plusieurs guerres, à commencer évidemment par la menace iranienne et ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le Hamas et ce qui se passe bien sûr au Liban. Donc face à cela, que faisons-nous? On garde une équidistance, on considère qu'il n'y a pas des menaces majeures du côté iranien, que le Hezbollah ne tient pas en otage l'État libanais. On demande le désarmement d'une résolution qui avait été adoptée quelques années, grâce notamment à la France, le désarmement du Hezbollah. Mais qui participe de ce désarmement? C'est à l'armée libanaise de le faire, mais elle n'a pas les moyens, donc il faut que la France s'implique encore davantage.
Et sur ce point précis,
si
vous dites en effet...
Et comment Israël ne peut-elle réagir face au bombardement au nord d'Israël, au tunnel organisé pour attaquer les villages du nord en Israël? Donc moi, je regarde ça avec lucidité, avec parfois du recul. Et je me dis qu'à partir du moment où on a une démocratie Israël qui est en première ligne face à l'islamisme, notre rôle, c'est de soutenir davantage les Israéliens face à ces menaces.
On va revenir là sur le Liban précisément. Et certains aussi, vous le savez, vous reprochent vos positions peut-être parfois trop pro-israéliennes. Juste, on se demande pourquoi maintenant? Pourquoi tant de critiques? Vous dites encore une fois lucidité. Mais je lis aussi, et je l'ai lu attentivement, cette tribune, une très très grande sévérité. N'avez-vous pas peur finalement que ces arguments que vous développez ne jouent finalement contre nos ennemis de l'intérieur, de l'extérieur, soit un argumentaire supplémentaire pour nous affaiblir?
Je vais utiliser votre expression, ennemi de l'extérieur et ennemi de l'intérieur. Mais c'est le terrorisme islamiste qui nous a frappés. C'est pas notre soutien, encore moins mon soutien à Israël, qui a fait que l'État islamique, Al-Qaïda, parfois les Iraniens...
Non, c'est bien évidemment.
Souvent, le Hezbollah nous ont frappé. Donc, notre intérêt stratégique, je comprends parfaitement votre question, notre intérêt stratégique, c'est de lutter contre ceux qui mènent une guerre à nos valeurs, à l'Occident, à la démocratie, la France. Moi, je soutiens Israël, d'abord parce que c'est une démocratie, parce que je pense que nous devons réviser en effet notre stratégie diplomatique en soutenant Israël dans une alliance stratégique.
Vous reprochez d'ailleurs
région.
À la France aussi, encore une fois, d'avoir notamment interdit le survol de son territoire il y a quelques semaines.
Oui, et puis d'être dans une polémique permanente, dans une tension permanente avec Israël. La deuxième priorité, c'est le Liban et le soutien à cet État avec qui nous partageons tant d'histoire et tant de culture. C'est aussi le soutien aux accords d'Abraham, c'est-à-dire entre les pays sunnites, les pays du Golfe, et j'espère demain l'Arabie Saoudite et Israël. C'est évidemment conforter notre accord stratégique avec les Émirats Arabes Unis. Et puis c'est le soutien, bien évidemment, aussi au peuple iranien massacré par le régime des Mollahs.
Soutien au peuple libanais. J'entends Benjamin Netanyahou qui a encore affirmé ces dernières heures que la menace du Hezbollah, notamment dans le sud Liban, impose la poursuite de l'action militaire. Encore des victimes, cette nuit, des enfants... Et ces incidents, notamment avec des militaires de la FINUL, là c'est le Hezbollah qui est impliqué, visé, des soldats français ont été tués. Juste une question, un hommage national doit se tenir aujourd'hui, en hommage notamment au caporal-chef Aznissé, Gérard Jean. Est-ce que vous êtes choqué, comme certains, de l'absence, de la présence du président de la République ou de Sébastien Lecornu à ces hommages nationaux? Il n'était pas présent la semaine dernière. Est-ce que c'est une absence qui vous choque?
Je n'avais pas remarqué cela, pour être honnête, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi il n'y a pas une présence au plus haut niveau, j'imagine.
La ministre des Armées est présente, évidemment.
Des Armées, de la Défense est présente. Le Hezbollah, il y a déjà de nombreuses années, avait été au cœur d'un attentat qui avait vu des dizaines de nos soldats tués. Deux de nos militaires valeureux ont été tués. Un autre a été blessé très gravement il y a quelques jours. Mais c'est bien la démonstration de la nature du Hezbollah qui rejette les discussions en cours à Washington, difficiles bien évidemment, mais nouvelles et j'espère porteuses d'espoir, entre Israéliens et Libanais. La France est absente de ces discussions.
Vous parlez d'aveuglement, de grand aveuglement.
À force d'être dans une équidistance, à force de considérer que l'Hezbollah est à la fois une organisation terroriste et politique, à force de ne pas voir que le Hezbollah, encore il y a quelques semaines, était au cœur d'une tentative de coup d'État au Liban, à force de ne pas voir que le Hezbollah, comme le Hamas, fabrique des tunnels dont le but est la destruction, évidemment, d'Israël, oui, on passe à côté de quelque chose d'essentiel.
Du côté de la diplomatie française, on s'active néanmoins pour... rouvrir le détroit d'Ormuz, vous l'évoquiez dans cet entretien un peu plus tôt. Une conférence a été organisée, notamment à l'initiative de la France, et des répercussions évidemment en cascade sur le plan intérieur, des prix à la pompe, carburant, dont sont témoins tous les jours les Français et qu'ils le subissent de plein fouet. Ce que fait le gouvernement français, ces aides ciblées, c'est la bonne stratégie selon vous? C'est la bonne réponse?
Je pense que oui, en plus ça tient compte également de l'état de nos déficits publics.
Qui ne nous permettent pas de faire plus.
Et donc de l'absence de marge de manœuvre. La France a raison, de ce point de vue-là, d'essayer de jouer demain son rôle pour sécuriser le détroit d'Ormuz, dans le lien notamment que nous avons avec les pays du Golfe et plus particulièrement avec les Émirats. Mais nous voyons bien d'ailleurs que nous sommes dans un de ces moments clés. Quand je vous parlais de basculement de l'histoire, du retour de la guerre avec la part de l'histoire et toutes les tragédies potentielles, au fond, nous sommes dans un moment qui ressemble à celui de 1958. C'est-à-dire que dans ces moments-là, la France doit être capable d'une forme de sursaut.
Mmh. Et ce qu'elle ne fait pas, est-ce qu'elle n'est pas en capacité aujourd'hui de faire?
Je pense que le prix de la pompe est tout à fait essentiel, mais nous venons de souligner ensemble la difficulté d'agir vu l'état de nos déficits publics. Donc, il faut dire la vérité aux Français sur l'état du monde, sur les enjeux stratégiques, sur les priorités budgétaires qui doivent être les nôtres, notamment il faut continuer à augmenter massivement nos budgets militaires, ce que font tous les pays européens.
Ce que nous faisons également.
Exactement, dans un basculement, parce qu'il faut soutenir évidemment l'Ukraine, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui la guerre de demain, c'est celle des drones, c'est la guerre hybride, c'est la guerre de l'intelligence artificielle, donc faut être à ces rendez-vous. Mais si ça c'est la priorité, si notre sécurité c'est la priorité, si l'investissement massif sur l'école et l'intelligence artificielle c'est notre priorité, ça veut dire qu'il faut des réformes profondes de notre protection sociale, de notre système de retraite, et qu'il faut aussi faire des économies massives. Et c'est ce discours de vérité qui manque. Or, tout est lié. La stratégie, la diplomatie, la guerre, l'économie, le budget, le discours, la stabilité de notre pays, puisqu'aujourd'hui, avec la dissolution, nos institutions sont... face à une crise démocratique existentielle tout à fait inquiétante.
Sans doute une thématique transition de toute trouvée pour la prochaine présidentielle qui a déjà commencé pour certains. Emmanuel Macron hier a lancé une pique aux partisans d'une ligne beaucoup plus dure avec le pouvoir algérien en ciblant, je le cite, tous les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Bruno Retailleau en tête s'est senti directement visé. Un président français peut-il d'abord parler comme cela? Et finalement, ce rapport de force qu'a voulu instaurer Bruno Retailleau n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est la bonne manière de faire?
Les invectives ne remplacent pas une ligne politique. et l'absence d'autorité sur ce dossier de la France. Le président de la République a beaucoup donné au régime algérien, notamment en termes de mémoire.
Il a trop donné.
Beaucoup
c'est
trop,
ce que j'entends dans vos mots.
Parce qu'il n'a rien reçu, il n'a reçu que des insultes, l'emprisonnement de Sansal pendant un an, qu'il faut soutenir fortement, la condamnation de Kamel Daoud, un autre intellectuel franco-algérien, un journaliste français, Christophe Glaize, qui est toujours dans les cellules algériennes. Nous n'avons pas un problème avec le peuple algérien. Nous avons un problème avec son président et avec ce pouvoir qui, par ailleurs, a accompli des barbouzeries, nous le savons, sur notre sol. Nous ne réglons pas la question migratoire. Donc, plutôt que d'invectiver, plutôt que d'insulter, plutôt que d'avoir un langage léger, il faut de la gravité et rétablir un rapport de force, en effet, avec le pouvoir algérien. C'est notre intérêt et c'est l'intérêt aussi du peuple algérien.
Le rapport de force, mais le président français, pour rappeler le contexte, évoquait le système des, vous savez, des ces médecins, de ces praticiens diplômés hors Union européenne, beaucoup viennent d'Algérie aujourd'hui. Bruno Retailleau dit en gros, c'est un prétexte et que finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt et que l'on n'agit pas suffisamment.
Oui, il y a un problème en effet de technique, de procédure, mais qui nous concerne nous, d'abord français d'ailleurs, je crois que le président de la République l'admettait, mais ça c'est un sujet, il n'est pas négligeable pour nos hôpitaux, mais c'est un sujet à part.
Mais encore une fois...
Le vrai problème, c'est quelle est notre stratégie vis-à-vis de l'Algérie, et pas seulement en termes de migration, même si c'est un thème tout à fait essentiel. Et nous sommes dans ces moments-là, nous l'avons évoqué longuement concernant le Proche-Orient, la question des valeurs est essentielle. Et quand des intellectuels ou des journalistes sont pourchassés, quand il s'agit en plus de nos compatriotes, il faut les soutenir, et il faut être clair et ferme à l'égard du pouvoir algérien.
Les soutenir.
Et pas jouer avec ça.
Boualem Sansal, vous en parliez, vous avez écrit également à son sujet, emprisonné en Algérie un an, libéré, retourné en France après avoir été gracié, qui déclare désormais vouloir quitter le pays. Lui aussi a des mots extrêmement durs, certains l'accusent peut-être un peu d'ingratitude. Vous comprenez sa position de vouloir quitter la France face au dictateur de la pensée, dit-il.
J'aime l'écrivain, j'aime sa langue, son amour pour les Français, son goût de la provocation, son courage et sa liberté, son combat contre l'islamisme. Il faut lire évidemment ses livres. Et moi, je le défends totalement. C'est un homme libre, mais qui aime passionnément la France, qui aime passionnément notre langue. Il l'a dit, il suffit de lire le Serment des Barbares en 2084, qui est académicien français et belge, donc les deux grandes académies francophones, et qui subit un procès inacceptable, insupportable, d'abord des Algériens, et puis d'une partie de la gauche qui recense ses amitiés.
Donc surtout ne pas lui en vouloir. Manuel
Valls. Soutenir et lui dire surtout notre reconnaissance.
On arrive à la fin de cet entretien, évidemment j'évoquais la présidentielle. La gauche, évidemment, RLFI, tous sont d'accord pour le fait que Jean-Luc Mélenchon ne soit pas leur candidat. Vous la connaissez parfaitement, cette gauche. Ils sont tellement nombreux à se préparer, à être déclarés, ou peut-être un jour candidat. J'ai envie de vous parler d'un certain François Hollande. Vous y croyez, à sa candidature? Il va y aller?
Mais moi, je pense que nous sommes dans un moment... c'est vrai pour Édouard Philippe, c'est vrai pour Gabriel Attal, c'est vrai pour Bernard Cazeneuve ou Raphaël Glucksmann, et donc c'est vrai aussi pour François Hollande. Si eux pensent qu'ils peuvent être utiles au pays, bah, qu'ils avancent, mais avec des propositions, avec des idées, avec un regard nouveau sur le monde.
Qui ne sont pas suffisantes du coup pour vous aujourd'hui?
Pas à ce stade, mais ça viendra, et François Hollande a suffisamment d'expérience pour évoquer ces sujets, mais avec un devoir de vérité vis-à-vis des Français.
Et vous?
Mais moi, je m'exprime sur le fond et je verrai ce que je ferai à l'automne tranquillement. Mais je pense que les idées que je défends, elles seront au cœur de la campagne et j'attends des réponses.
Manuel Valls, merci beaucoup d'avoir été notre invitation ce matin. Il est 8h47 sur RMC et BFM TV.